La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Eh bien, cette émission de la semaine dernière sur les surnoms et les sobriquets des gens que nous avions connus ou côtoyés nous a donné l'idée de poursuivre l'expérience avec les gens que nous n'avons pas connus du tout. Et pour cause d'ailleurs, c'est que bien souvent, ils sont partis pour un monde meilleur avant même que nous ne soyons nés nous-mêmes.
Et oui, on ne peut pas connaître tout le monde quand même.
Non. Mais enfin, voilà peut-être la naissance d'un nouveau cycle dans la planète du jazz, celui des surnoms. Et nous allons parcourir une sorte d'annuaire des notoires et des notoires surnommés. Et le premier s'appelle...
Alger Alexander, mais tout le monde l'appelait Texas.
Texas, tout simplement.
Bah parce qu'il venait de là-bas.
Et c'est intéressant, cette affaire de Texas, car les musiciens originaires du Texas, et les bluesmen et jazzmen, ont quelque chose de particulier. Et je pense, par exemple, au saxophoniste ténor. Ben, tous ceux qu'on a connus qui venaient du Texas étaient des gens qui avaient énormément de force dans le discours. Voilà, le Texan est comme ça.
C'est une province, je dirais, rude, où les gens ne mâchent pas leurs mots, et bien en musique, c'est pareil.
D'ailleurs, ils s'imaginent qu'ils forment à eux tout seuls les deux tiers du territoire américain.
Oui, oui, ils exagèrent un brin, quoi.
Oui, c'est bien connu, ils ont beaucoup d'assurance. Et donc, ce Texas Alexander, qui est né dans le Texas et qui est mort à Houston, également dans le Texas, a entre-temps beaucoup bourlingué, et on le retrouve à New York, dans le studio obscur d'une marque obscure, et il rencontre...
Quelqu'un qui, lui, n'est pas obscur du tout, c'est King Oliver.
Maintenant, que faisait King Oliver à cet endroit, à ce moment-là ?
Mystère.
Mystère et boule de gomme. En tout cas, il était également accompagné d'un petit blanc, guitariste, qui se faisait appeler Eddie Lang, mais qui s'appelait en réalité Salvatore Massaro. Puis il y avait le père Clarence Williams, qui était partout à la fois au piano. Et puis avec tout ça, ça fait un très bon disque, où King Oliver, le trompettiste, donc, ou le cornettiste, manie la sourdine wah-wah avec beaucoup de blues dans son jeu. C'est très intéressant. Et ça s'appelle...
Frisco Train Blues. Frisco, ça veut dire, c'est le diminutif, encore un sobriquet, de San Francisco, la ville.
Et ce fameux Frisco Train, c'est celui qui emmenait les gens dans des conditions variables selon leurs moyens, depuis la première classe jusqu'en dessous des wagons de marchandises, de Saint-Louis à San Francisco, et il s'appelait le Frisco Highball.
C'est vous dire s'il allait vite.
Oula!
I went to the station, laid my suitcase down. I went to the station, laid my suitcase down. I went to the station, laid my suitcase down. Asked the boy, John, how long my woman been gone? He looked at me and began to moan. He looked at me and began to moan. Describe your woman, I'll tell you what road she's on. Where were you, sweetie mama, when the Frisco train left town? Where was you, sweetie mama, when the Frisco train left town? She blows so loud till it blows the station down. Thank you.
attend d'un trompettiste à l'autre, du maître de Louis Armstrong à son...
disciple le plus proche peut-être.
Peut-être, en tout cas sa doublure, car Henry Allen...
qui était surnommé Red, ce qui veut dire rouge. Alors rouge, bien sûr, c'était évidemment, on faisait allusion à sa couleur de cheveux. C'était un rouquin. C'est un des surnoms les plus courants dans toute, j'allais dire, l'Europe et même l'Amérique.
Dans toute la société.
Et, c'est-à-dire, à part en Afrique noire où il n'y en a pas énormément de rouquins.
Et à part en Irlande où ils sont tous rouquins.
Où ils sont tous rouquins. Mais dès que quelqu'un est roux, ben on lui donne un surnom. Alors, ça peut être Poil de Carotte, le célèbre Poil de Carotte fameux. Mais ça peut être aussi Rouquin, Roussin, Roussinou.
Roucmout.
Oh, quelle horreur.
Et ça donnait des noms de famille, d'ailleurs, chez nous. Roux, Rousseau, Rougeron. Je connais un Rougeron, musicien. Eh bien, quand il était plus jeune, parce que maintenant, ses cheveux ont blanchi, mais son nom de famille, qui remontait à des générations et des générations, était totalement adapté à ce Rougeron-là, qui était rouquin comme ses ancêtres.
Et ce Rougeron, oui, voulait dire ceux qui sont rouges, quoi. Et
ce Red Allen était un trompettiste souvent excellent, mais qui avait un point faible, c'est qu'il était facilement nerveux et à ce moment-là, son discours commençait à devenir un peu décousu et fébrile. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'était vraiment un excellent musicien qui a fait de très bonnes choses. Mais alors, quand il était placé à côté d'un élément stabilisateur, alors là, ça allait très bien. Là, on le retrouve en compagnie
de Kidori, le trombone.
Alors là, le trombone, le vieux maître de l'école créole de trombone.
Tranquille.
Tranquille, totalement serein et maître de son art, c'était le stabilisateur parfait. Et donc Red Allen est excellent dans ce qui va suivre, qui est tiré d'une tournée qu'il a faite avec Kidori. Et il faut attirer l'attention sur le rôle du batteur dans ce disque parce qu'il est exemplaire. Il est simple, efficace, il n'y a pas une fioriture, il n'y a pas un effet, il n'attire pas l'attention sur lui. Et pourtant, il est là, c'est lui qui tient tout le monde ensemble. Et c'est assez formidable. Ce type-là s'appelait Alton Red.
Et on va l'entendre dans I Got Rhythm.
Qui a composé I Got Rhythm, madame ?
Il semblerait que ce soit Gershwin.
Et oui, c'est Gershwin qui a composé ce morceau qui a servi de canevas à d'innombrables autres standards. I Got Rhythm.
Thank you.
Et nous revoilà dans le blues avec un pur produit du Mississippi, on dirait même un représentant, un témoin du blues tel qu'il se chantait dans les campagnes il y a très très longtemps.
Il s'appelle James Arnold et il a un drôle de surnom, lui.
Il est devenu connu sous le nom de Kokomo Arnold.
Kokomo, qu'est-ce Kokomo. Que c'est ? Imaginez-vous que, pour une raison par contre qu'on ignore, un des morceaux de ce James Arnold, c'était Old Original Kokomo Blues. Probablement une pub de café.
Oui, d'après une marque de café. Que dire ? Tu sais, l'introduction de tel ou tel détail réaliste dans le titre d'un morceau ou dans un blues, ça peut venir simplement du fait qu'ils ont chanté quelque chose, qu'ils ne savaient pas très bien comment l'appeler, qu'il y avait un verre qui traînait où il y a une pub dessus. Ça arrive, des choses comme ça. Toujours est-il qu'un beau matin, il enregistre un blues qui s'appelle Old Original Kokomo Blues, et là, gros succès. Et ce James Arnold est devenu après Kokomo, parce que les gens le connaissaient d'après ce disque-là. C'est aussi bête que ça. Ce morceau-là, que nous allons entendre, s'appelle Model T Woman Blues. Ah ah, qu'est-ce que c'est qu'un Model T, chère madame ?
Ben oui,
le modèle T était la voiture inventée par Henry Ford, le célèbre industriel, pour mettre l'automobile à la portée de tous les budgets. C'était une voiture qui n'avait que deux vitesses et qui avait le strict minimum. C'était le concept de deux chevaux aussi.
Je vous signale qu'on est en train, de longues, longues années plus tard, de commencer à prévoir maintenant des voitures comme
des
ça.
Des motos de ce genre.
Crise oblige.
Exactement. Alors naturellement, le Model T Woman Blues, ça veut dire c'était une femme Model T. Et les paroles de ce genre de blues, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'ils chantent là, mais j'en ai un autre en tête. Ces femmes qui sont là et qui se prennent elles-mêmes pour des Cadillacs, en réalité, ce sont juste des Ford Model T. Vous savez, elles ont un très bel aspect, mais elles ne peuvent pas transporter grand-chose.
Sympa.
Sympa pour les femmes, ce Kokomo Arnold.
My woman, she got wings just like a dog on night before. Tell my woman, she got wings just like a dog on Model T Ford. Said she run up and down these alleys, stop right in the middle of the road. Now you can all her time crack and she just won't budge. Now you can all her time crack and she just won't budge. And when you get her started, she creeps off just like a bad zipper. Now you can adjust the carburetor and step down on her gas. Now you can adjust the carburetor and step down on her gas. If you ain't got a strong constitution, you got to buy you a German mask. I'm gonna buy me a baby Lincoln, and I know she's built for speed. Now I'm gonna buy me a baby Lincoln, and I know she's built for speed. When you get it up to 60, Lord, you can ride well, please. Model T is a good car, and it breeds the country music. Model T is a good car, and it breeds the country music. Soon as the infant of that motion tractor, that old mule is still a country fool.
Ah, enfin une femme.
Ah, et quelle femme ?
Cora Calhoun, qu'on appelait, qu'on surnommait Lovie Austin. Alors, Lovie, vous imaginez bien que ça veut dire la petite chérie, la petite amoureuse.
Ah oui, ça c'est sûr.
Mais Austin.
Personne ne sait pourquoi, mais peu importe. Cette Lovie Austin, elle avait quand même de la classe et du chien. Tu l'aurais vu passer dans sa limousine entièrement garnie de peau de léopard, y compris les dents.
Une tigresse ou une léoparde, je ne sais pas.
Ben, c'était une sacrée meneuse, hein, parce qu'elle a eu son propre orchestre. Très vite. Elle a enregistré avec une partie de cet orchestre-là, parce que quand on voit les photos, ils étaient bien une dizaine, mais au studio, ils étaient 4 ou 5, pas plus. Accompagnant Marainet, accompagnant Ida Cox, enfin...
Et on a oublié de vous dire qu'elle était pianiste.
Elle était pianiste, compositrice, et elle était même la pianiste maison attitrée de label Paramount, le label pour noir qui a eu une très grosse production dans les années 20. Et elle était née comme Bessie Smith à Chattanooga, dans le Tennessee. Ça fait beaucoup.
Quelle femme.
Et alors, elle a eu malheureusement une grande éclipse à l'occasion de la crise économique de 1929. Elle a vécu petitement de ses droits d'auteur. Puis on la retrouve après dans une usine d'armement pendant la guerre, parce qu'elle a travaillé pour la victoire. Et puis après, elle a enregistré encore une fois avec sa vieille copine Alberta Hunter. Alors c'est assez amusant les photos, parce que c'est presque deux vieilles dames qui sont très complices. Et le disque est très marrant. Et puis, elle a fini sa vie comme pianiste dans une école de danse.
Oh ben quand même, c'est une femme qui a une vie remplie.
Quelle carrière. Alors quand même, son point le plus fort, à mon avis, c'est quand elle avait cet orchestre avec Tommy Lanier au cornet, qui a enregistré quelques faces magnifiques. Pas très bien enregistré, parce que c'était un équipement un peu rustique.
On va vous faire entendre un des morceaux, là. Traveling Blues.
Qui est aussi le titre du livre que Dan Vernet a consacré à la biographie très très illustrée de Tommy Lanier. Traveling Blues. Ça se passait en 1924 et Tommy Lanier n'allait pas tarder à entrer dans le big band de Fletcher Anderson quelques temps plus tard, où il allait retrouver un clarinettiste absolument phénoménal.
Alors celui-là, il avait un surnom dont on vous a déjà parlé la dernière fois. On l'avait surnommé Buster.
Et Buster, ça veut dire le phénomène.
Le phénomène, voilà. On vous l'a déjà dit, comme quoi il n'y a pas qu'un seul phénomène sur Terre, n'est-ce pas?
Et dans le jazz, il y a plusieurs Busters. Nous avons parlé la dernière fois de Buster Cooper, parce qu'on l'a connu. Là, celui-là, on ne l'a pas connu, Buster Bailey. Mais il y a aussi Buster Smith et d'autres Busters qui me viendraient en tête si je creusais un peu.
Pourquoi phénomène? Parce que c'était un virtuose extraordinaire.
Il avait appris la clarinette très jeune et avec des professeurs de classique. D'ailleurs, tu sais, c'est très bien, même si on fait du jazz plus tard, d'apprendre classiquement l'instrument, c'est bien connu.
Oui, parce que souvent, quand on apprend classiquement, on apprend une technique à mettre un son le meilleur ou en violon à mettre ses doigts le mieux possible,
oui,
le plus efficacement possible. Et après, on en fait ce qu'on veut.
Et en clarinette, c'est l'articulation. Et c'est vrai, après, on en fait absolument ce qu'on veut. Alors, d'un autre côté, tu diras, il y a des autodidactes qui, eux, développent leur propre manière et finalement arrivent à des résultats qui sont moins éblouissants quelquefois, mais qui sont très intenses sur le plan émotionnel. Donc, on renverra tout ce petit monde dos à dos. Là, nous avons affaire à un phénomène de la clarinette. Là, il n'y a aucun doute, et il va vous le prouver tout de suite dans le morceau qui vient, et qui s'appelle...
Man with a horn goes berserk.
Alors là, ça mérite un petit mot quand même.
Oui, parce que c'est pas... Même pour ceux qui parlent un peu anglais, ça veut dire quoi?
Man with a horn, ça... Ça renvoie à un livre un petit peu romancé, un petit peu gnangnan, qui s'appelle comme ça et qui est consacré par une sorte d'hagiographe à la vie de Bixby de Berck. Mais c'est très romancé et c'est un peu ridicule. Et ça s'appelait, en fait, c'est Le jeune homme à la trompette, hein, en français. Et berserk, ça veut dire dingue, fou, frappadingue.
Bah, il devient fou.
Alors ça, le titre veut dire Le jeune homme à la trompette est devenu
fou.
Voilà un trompette.
À cause de son surnom, il doit passer inaperçu. Parce que son surnom, c'est Shorty.
Shorty est là vraiment furtif, discret. Et naturellement, c'est l'amant d'une femme mariée.
Il faut vraiment qu'il soit le plus discret possible. Donc, il y a ce nom de Shorty, ce qui tendrait à prouver que Harold Baker, qui avait ce surnom, devait avoir beaucoup de bonne fortune.
Là, sans avoir l'air de rien, je pense que c'est ce qu'il a voulu, effectivement, ce surnom. Et alors, on retrouve ce Shorty dans le surnom d'un train, un train du Texas qui partait de Houston et qui allait dans un pénitencier une fois par mois avec à bord les femmes et les petites copines des prisonniers. Donc ce Shorty, c'est toujours quelque chose de furtif, limité, en douce, discret, etc. Et ce sacré Harold Becker, finalement, il jouait son jeu sans avoir l'air de rien. Mais c'était un fameux trompettiste. Et tu sais qu'en jazz, il y a les trompettistes, il y a les puissants et les doux. Lui, il fait partie des doux.
Et oui, ça a l'air d'être un charmeur.
Oui, c'est un charmeur. Et le voilà dans une séance d'enregistrement mémorable, organisé par Billy Strayhorn, le pianiste doublure et bras droit de Duke Ellington. Et le morceau s'appelle...
You brought a new kind of love to me.
C'est un morceau qui, traduit en français, faisait partie du répertoire de Maurice Chevalier sous le titre, je crois me rappeler, Un nouvel amour.
Oh, c'est trop mignon.
Et cet air-là, je pense, vous dira quelque chose. Je suppose que tu sais ce que c'est qu'un dud.
Oui, oui, oui. C'est moralement moyen. C'est un gars qui connaît les bons plans, qui sait se débrouiller dans la vie, mais pas forcément honnêtement. Hein.
Oui, par tout moyen, par tout moyen.
Par tout moyen possible. Un malin.
Oui, c'est un petit malin. Un petit malin, et il arrive à avoir à la fois le confort, le plaisir, et les moyens.
En somme, le beurre et l'argent du beurre.
Et puis la crémière, en prime, naturellement.
Naturellement.
Et alors, avec tout ça, nous avons vu un soir arriver à la maison un Dud assez célèbre, puisque c'était son surnom. En réalité, il s'appelait...
Wilbur Bascombe.
Et ce Wilbur Bascombe était surnommé Dud. Il faut avouer que nous avons eu du mal à assimiler tout ce qu'on vient de raconter sur ce mot, Targo, à ce petit bonhomme qui était vraiment sympathique, discret, souriant et... et qui vraiment correspondait pas du tout à ça. Et pourtant, il s'appelait Dud Bascombe. Il est d'ailleurs très célèbre sous ce nom. C'était un trompettiste qui était le principal soliste du big band de Erskine Hawkins. Donc, c'était un des piliers du Savoy. Il a quand même vécu des choses assez étonnantes. Je lui faisais remarquer que sa manière de jouer wah wah ressemblait à celle de Cat Anderson. Et il me dit, c'est pas étonnant, quand nous étions jeunes, nous jouions dans un big band de lycée.
Des gamins, quoi.
Et nous étions assis côte à côte. Ah, je lui dis, ah bon ? Oui, oui. Et ben, je lui dis, vous savez, vous me rappelez aussi Rex Stewart. Ah, mais il me dit, c'est pas étonnant. Kat était à ma droite et Rex à ma gauche dans cet orchestre. C'est comme ça qu'on découvre que le jazz, c'est aussi un réseau d'amis d'enfance, bien souvent.
Oui, oui. On apprend dans les mêmes endroits.
Alors, le disque le plus célèbre de Erskine Hawkins, de cet orchestre vraiment formidable, c'était un morceau qui s'appelait...
Tuxedo Junction.
Tuxedo Junction, c'est un carrefour. Très commerçant, très connu d'ailleurs, près de Birmingham, dans l'Alabama, dans un faubourg qui s'appelle Hensley. Et là, il y avait énormément de magasins, d'épiceries, il y avait un restaurant de luxe et plusieurs restaurants populaires, il y avait un dancing, il y avait même un dentiste, et il y avait un loueur d'habits.
Pour les soirées.
C'est là qu'on pouvait trouver, si on voulait s'habiller très bien, ce que nous appelons ici un « smoking », et qui s'appelle là-bas...
Un tuxedo.
D'où le nom de baptême de ce carrefour, qui s'appelait tout à fait autrement, avec tous les musiciens qui avaient beaucoup besoin de tenues de scène, et à l'époque...
Ils venaient louer, hein, voilà. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter, quelquefois. Hein. C'était vraiment pour l'occasion. Hein.
C'était donc très fréquenté par eux, et ils appelaient ce carrefour le Tuxedo Junction. Et ils en ont fait un morceau qui est resté très célèbre. Hein. C'est un standard, Tuxedo Junction. Et on y entend, très en valeur, Monsieur Wilbur Bascombe, lui-même...
Dud.
barbecue. Nous savons par un morceau de Louis Armstrong qui s'appelle Strutting with Some Barbecue qu'il s'agit d'une jolie fille en argot. Mais nous ne nous arrêterons pas à cette exception parce que le barbecue qui vient...
Ben, Robert X, il avait ce surnom de barbecue, Barbecue Bob, bien sûr Robert. Mais ça venait pas du tout d'une affaire de fille, ça venait du fait qu'il était très souvent musicien dans un coin vraiment réservé au barbecue.
Qui se trouve dans Atlanta, une sorte de jardin public où il y a une très grande surface pour que les gens puissent pique-niquer.
Et cette surface a même un nom, hein, puisqu'on l'appelle Tidewell's Barbecue Place.
Donc c'est vraiment... Tout à fait éloquent. Et ce barbecue Bob, qui s'appelait donc Robert Hicks, H-I-C-K-S, hein, s'il vous plaît, tout de même. C'était un formidable guitariste et chanteur. Et le morceau qu'il va nous chanter là...
Ah oui, il a vraiment un drôle de nom.
Ah
hein.
Oui.
Blind Pig Blues, ce qui veut dire le blues du cochon aveugle. Bizarre.
Ah, c'est très très bizarre. Alors c'est une sorte de code, ça remonte à la prohibition. Hein, c'était l'époque où il était interdit de consommer de l'alcool. Hein. C'était quand même... une époque étonnante. Et là, sur les foires, il y avait des gens aussi discrets que les joueurs de bonneto, tu vois, aussi discrets, aussi interdits, qui montaient des saloons clandestins. C'est-à-dire qu'en douce, on pouvait aller boire un coup sans se faire trop remarquer.
Mais le problème était de prévenir les gens.
Ah ben
et
oui, évidemment.
Là, on peut aller boire en douce. Alors, ils avaient trouvé un truc. Ils disaient « Venez voir mon cochon aveugle. Venez voir le cochon aveugle. » Tout le monde se précipitait.
Tout le monde appliquait pour boire du whisky de baignoire qu'on appelait là, à l'époque, du moonshine, du clair de lune. Tout ça, c'est des expressions...
de l'époque.
De l'époque, c'est assez marrant. Et ce Blind Pig Blues, eh bien, il ne manque pas de sel. C'est la moindre des choses pour un cochon même aveugle. Je vous signale que nous extrayons, pour vous passer ce morceau, un 45 tours de la marque Pirate, publié sans aucune redevance par un label clandestin suédois dans les années 60.
Ne le dites à personne.
Et si la police des ondes vient vous voir, ne donnez pas votre vrai nom.
Let me in, please, Charlie. No one here but me. Oh, let me in, please, Charlie. No one here but me. I'm speaking easy. Give me a pint of sangaree. Pour me out some white mule. Pour me out some sandy rye. Pour me out some white mule, pour me out some sandy rye. I don't want no bug juice, that old stuff is too darn high. Oh, liquor, 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 give me liquor until I die. Oh, liquor, 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 give me liquor until I die. And I'm always happy when I've got my liquor night. I'm kindly worried, got something on my mind. I'm kindly worried, got something on my mind. That's why I drank my whiskey, make my sorrow lag behind. Blind pig, sure glad you can't see. Blind pig, sure glad you can't see. Well, if you could, it would be too tight for me. I'm slipping, 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 trying to dodge United States law. I'm slipping, 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 trying to dodge United States law. I'm loaded down with bootleg, like they make them yammy call.
T'as remarqué qu'il accorde sa guitare de manière un peu spéciale et surtout qu'il se sert de la technique qu'on appelle bottleneck, c'est-à-dire que au bout du petit doigt, il y a un goulot de bouteille qui est enfilé et ce goulot sert à venir sur les cordes pour obtenir un effet sonore, une modulation du son.
Une sorte de glissando assez sonore et qui donne une impression tout à fait particulière de remontée, de redescente.
C'est des inflexions vocales hein, qui sont,
voilà,
très,
exactement.
Sont traduites comme ça. Mmh. C'est une technique qui a été très utilisée dans le début du blues, dans le sud après. Ils sont servis d'un petit tube d'acier parce que ça a été fabriqué exprès. Mais ça a gardé le nom de bottleneck. Maintenant, voici un autre natif d'Atlanta. Il s'appelle Edgar Battle et lui, il joue de la trompette.
On vous a parlé de son surnom il y a bien, bien longtemps. Mais c'est amusant comme tout parce que ça correspondait vraiment à son aspect physique. On l'appelait Pudding Head.
Tête de pudding.
Et c'est vrai qu'il avait une tête assez carrée.
Et dedans, c'était robustement structuré.
Oh oui, qu'il était intelligent ce Pudding Head.
Il était également d'une très grande honnêteté intellectuelle et d'une très grande détermination. En bref, c'est un type qui savait ce qu'il voulait, qui savait ce qu'il pensait et qui ne mâchait pas ses mots. Nous avons eu le grand plaisir de le croiser une fois. Et c'était en plus un type d'une extrême gentillesse.
Ouais.
Vraiment.
Ouais, ouais.
C'est un mélange très sympathique, ce Edgar Battle. Et c'était un fameux trompettiste. Là, nous allons l'écouter dans sa meilleure période trompettistique. Il faisait alors partie de l'orchestre de Willie Bryant, qui était une sorte de showman. Et l'orchestre de Willie Bryant, là, il joue un arrangement qui s'appelle
Viper's Moon.
Edgar Battle dans ses œuvres.
The Viper's Moon. I want all y'all to get together and swing me out, cause I feel the spirit ringing to me. Thank you.
way down, I tell you. I'm ready, I'm ready, I'm ready.
C'était un bon orchestre, l'orchestre de Willie Bryant, et puis il y avait quelques jeunes qui s'y faisaient les dents en attendant de devenir célèbres, puisqu'on y trouve Ben Webster, Teddy Wilson et le batteur Cozy Cole, quand même.
Quand même, quand même.
Quand même, quand même. Ce n'est pas rien.
N'est-ce pas ?
Ce n'est pas rien. Et le candidat suivant s'appelait Léon.
Pour le prononcer, je vais prendre un peu de temps.
Ah oui, allons dans le...
Léon, pas de problème.
Oui, pas de problème.
Mais Beiderbecke, que vous allez tous comprendre pourquoi finalement on l'appelait Bix.
Mais je crois que c'était tellement compliqué, surtout en Amérique, où les abréviations vont bon train.
Que du coup, ils ont totalement abandonné Beiderbecke pour en faire Bix. Ce Bix, ben, d'abord, il était blanc. Il jouait une musique de noir. Il vivait une vie qui, où il brûlait absolument la chandelle par les deux bouts.
Et alors, qu'est-ce qui descendait ?
Oui, oui, oui. Je crois qu'il était surtout connu pour sa musique d'accord, mais aussi par une remarquable descente.
Il en est quand même mort à 28 ans.
Oui, oui. On rit, mais il s'est détruit tout seul. Hein.
Faisons jouer ce cher Bix quand même. C'était très romantique ce qu'il faisait. C'était sensible. C'était très chouette. Et on l'entend ici dans un de ses plus célèbres solos de trompette.
Singing the Blues.
Voici un autre Léon. Celui-là s'appelle...
Léon Berry. Mais son surnom est tout à fait amusant. Il s'appelle Chou.
Moi, j'ai cru très longtemps que Chou, c'était C-H-E-W. C'est-à-dire qu'il était surnommé comme ça parce qu'il mâchait de chewing-gum toute la journée. Eh bien, pas du tout.
parce que figurez-vous qu'il avait eu l'idée assez originale de se laisser pousser une sorte de petite barbiche qui ressemble, vous savez, à ces barbiches asiatiques pas très épaisses, une petite barbiche chinoise.
Et alors, comme à l'époque, un film célèbre qui était calqué sur l'histoire d'Ali Baba, mais version asiatique...
avait fait un tabac.
Ah oui. Et dont le héros s'appelait...
Chou Chin Cho.
Eh bien, comme ils ont trouvé que ça lui faisait une ressemblance, les gens qui voyaient débarquer ce jeune homme...
Eh bien, ça y est, ça lui était resté Chou.
Chou. Bonjour Chou. Voilà, exactement. Alors ce Chou Berry était un musicien absolument exceptionnel, un saxo-ténor vraiment de très très grande classe, qui a en plus était un chef dans l'âme. C'est le genre de type à qui on donne les clés du camion. Il a atterri chez Cab Calloway et il est devenu une sorte de directeur musical de son big band. Et malheureusement, il est mort très jeune dans un accident de voiture. Et là, le jazz a été privé d'une très très grande pointure. Tous les jeunes de talent étaient repérés, happés, et intégré d'autorité dans le big band de Fletcher Anderson, qui a donc vu passer infiniment de beaux mondes, dont Chou Berry. Et là, on l'entend avec Roy Eldridge, également à l'époque, un jeune qui monte, et dans le même orchestre pour les mêmes raisons, dans un morceau qui s'appelle...
Stealing Apple.
Voilà, comme vous pouvez entendre, c'est une histoire de voleur de pommes. Et
c'est très mal. Hein.
C'est très mal, et cette espièglerie est naturellement due à la plume de compositeur de...
Fats Waller, le rigolo.
Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aller voler des pommes ensemble et on va commencer par un solo de piano. C'est très rare, les solos de piano de cette longueur, de Fletcher Anderson, qui était un type qui dirigeait son orchestre, qui jouait du piano, mais qui était généralement, en tant que soliste, très effacé. Là, il nous livre 32 mesures d'un coup et c'est vraiment un solo délectable. Ça commence comme ça. Et puis après, il y a Chou Berry et Roy Eldridge.
Prenez du plaisir. Thank you.
ce Chou Berry, qui au physique était d'ailleurs plutôt massif, quand il joue, le mot qui vient à l'esprit, c'est qu'il déboule. On voit débouler Chou Berry. C'est bien agréable de voler des pommes dans des conditions pareilles. Et pour terminer, retour au blues. Le musicien, le bluesman, guitariste et chanteur suivant s'appelle Francis
Blackwell. Et son surnom, c'est Scraper.
Alors, Scraper, c'est un grattoir, c'est littéralement parlant. Mais...
Par extension, c'est le pas commode,
ouais.
Et le bagarreur.
Ouais, c'est le bagarreur, mais c'est aussi le type qui sait dire des ennuis. Mettons tout ça bout à bout et un peu de poil à gratter, ça fait un profil humain intéressant. Et ça vous expliquera que le surnom de Francis Blackwell, donc connu sous le nom de Scraper Blackwell, lui a été donné par...
sa grand-mère, ce qui prouve que ça faisait un moment qu'il était bagarreur. Hein. Il n'a pas commencé à 20 ans.
Je crois me rappeler que c'était le cousin de Big Bill Brunzi. Mais là, ça mériterait vérification, mais il me semble bien. Enfin, quoi qu'il en soit, le voilà, ayant quitté pour un temps, pour une séance d'enregistrement, son copain dont il était l'accompagnateur attitré, le pianiste Leroy Carr. Et tout seul, guitare et vocale, il chante
Down South Blues.
Alors Down South Blues, le blues du sud profond, hein, c'est pas la peine de vous faire un dessin, il y a quand même beaucoup de nostalgie dans ce genre de choses.
Allez, imaginez-vous là, avec le Mississippi qui coule, la chaleur, les moustiques,
la guitare,
la guitare, et puis un beau blues.
Et un beau blues.
I'm just in yes again of the road sunny Tennessee. I'm just in yes again of the road sunny Tennessee. And wondering if my baby is waiting there for me. I'm going where the morning crosses the Illinois. I'm going where the morning crosses the Illinois. And catch me a free train and go back home again.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.